Et ce matin, je voudrais, on vient de l'évoquer, on commence la semaine sainte, et je voudrais vous parler d'un passage dans la Bible qui me semble vraiment très important, tellement important que finalement, on a décidé dans la tradition de l'Église de lui consacrer chaque année un dimanche. C'est ce qui se fait dans l'Église catholique. Lorsque vous allez sortir de l'Église aujourd'hui, vous allez recevoir les petits rameaux parce que, en commémoration de ce dimanche entrée victorieuse de Jésus à Jérusalem. En fait, je pense que oui, c'est vraiment un événement particulièrement important parce que c'est le couronnement de Jésus-Christ. Quand Viviane m'a dit « Tu vas parler de quoi dimanche ?» J'ai dit « Je vais parler du dimanche des rameaux. » Elle m'a dit « Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus sur le dimanche des rameaux. » C'est vrai, il n'y a pas grand-chose à dire sur le dimanche des rameaux. Sinon que dans le texte que nous allons lire, j'ai choisi l'évangile de Matthieu, chapitre 21. On lira petit à petit, par fragments, des versets 1 à 11. Il nous est rapporté justement une histoire qui est la célébration de Jésus-Christ roi. Dans ce passage, Jésus-Christ est couronné comme roi. Dans ce passage, il y a une série de détails, une série de choses qui se mettent en place qui nous permettent de dire, oui, ce jour-là, dans toute son humilité, Jésus-Christ a reconnu publiquement qu'on l'appelle le roi des cieux, venu d'en haut et rentrant à Jérusalem. On a lu dans le psaume tout à l'heure, 122, « De Jérusalem vous vient la paix ». La paix vous vient de Jérusalem. La paix nous vient de Jérusalem parce que le roi des rois est rentré comme roi à Jérusalem pour y déposer sa paix. C'est pour ça que nous lisons dans le psaume 122 que la paix nous vient de Jérusalem à cause de l'entrée triomphale de Jésus-Christ ce jour-là à Jérusalem. C'est le couronnement d'un roi, mais c'est un couronnement un peu particulier, c'est vrai. C'est vrai, c'est un peu particulier. C'est pas tellement les couronnements auxquels nous sommes habitués. Je pense aux remises des Oscars pour les stars. Quel couronnement ! On passe toute la nuit à attendre. Qui reçoit l'Oscar dans un faste indescriptible ? Je pense au couronnement de Napoléon, quand il s'est sacré empereur. Ce petit homme qui a été empereur quelques petites années dans l'histoire de l'humanité. On dit que c'était un cortège invraisemblable qui allait là-bas pour le sacre de l'empereur. Et Napoléon s'était fait accompagner pas moins de 6 compagnies de cavaliers. Une compagnie, ça fait 1050 cavaliers. Il y avait 6300 cavaliers avec lui pour l'accompagner là-bas avec des officiers, des sous-officiers. 6 régiments. Je pense à nos amis, Robbie et Lizzie ne sont pas là aujourd'hui, mais je pense au couronnement de la reine Elisabeth II. On était chez des amis anglais la semaine passée et je posais la question, mais pourquoi la reine a une telle valeur dans votre culture? Alors ils m'expliquaient pourquoi, et c'était vraiment, oui, elle a vraiment une telle valeur dans leur culture. Mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des images de rétrospective du couronnement d'Elisabeth II. Quel faste, quel monde! Quel décorum, que de chars, que de carrosses, que de voitures. On la voit avec les joyaux de la couronne sur sa tête, avec le sceptre, je sais pas s'il est en or ou quoi, dans ses mains. Et ça m'a fait rigoler parce que vous savez que on a confectionné pour le couronnement de la reine Elisabeth II une robe spéciale. Parce que elle est reine de l'Angleterre. L'Angleterre avait sous la tutelle le Commonwealth, tous les pays du Commonwealth. Donc il fallait qu'au moment de son couronnement, elle mette en évidence qu'elle était quand même reine du Commonwealth. Et il y avait sur sa robe, tout était brodé. Il y avait la rose des Tudors. Il y avait les chardons écossais. Il y avait le poireau gallois. Il y avait le trèfle irlandais. Il y avait la feuille d'érable canadienne, il y avait le mimosa doré d'Australie, il y avait la fougère argentée néo-zélandaise, il y avait la protée royale sud-africaine, il y avait la fleur de lotus pour l'Inde, il y avait le thé pour Ceylan, il y avait le coton, le jute pour le Pakistan, tout était sur sa robe. Quel faste, quel décorum. Il ne s'agit pas ce matin du même couronnement, mais quand même, combien il est précieux pour nous de reconnaître qu'il s'agit du couronnement du roi des rois, Messie, que le peuple juif attendait. On va lire la première partie de Matthieu 21, des chapitres, du Matthieu, 20, Matthieu chapitre 21, des versets 1 à 3. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il les laissera aller. » On ne sait pas trop ce qu'ont pensé les disciples quand le Seigneur leur a dit « Bon, vous s'occupez de rien, allez là-bas, là il y a un gars, il a une ânesse qui est attachée, il y a un petit ânon à côté, vous verrez, vous les verrez tout de suite, vous vous cassez pas, vous prenez les deux, vous les amenez, et là si quelqu'un vous dit quelque chose, vous dites simplement « Le Seigneur en a besoin, et ça va, on vous laissera aller. » On ne sait pas trop ce qu'ont pensé les disciples hein, avec cette mise en place des choses. J'imagine que c'est après les événements de la mort, de la résurrection, qu'ils ont commencé à composer les pièces du puzzle et qu'ils ont compris ce que le Seigneur a fait ce jour-là. Qu'est-ce que Jésus a voulu montrer quand il est rentré à Jérusalem, assis sur ce petit ânon, l'enfant, enfin le bébé d'une ânesse? Qu'est-ce qu'il a voulu montrer? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? La première chose, c'est que il a apporté la paix. Il était celui qui apporte la paix. Jésus est rentré à Jérusalem en apportant la paix. Vous savez, dans la tradition de l'époque, il y a deux façons d'arriver dans une ville quand on est un roi. C'est d'arriver sur un cheval, c'est une monture guerrière, et on apporte dans la ville la guerre, le conflit, le combat. Et il y a une autre façon d'arriver lorsqu'on est roi dans une ville, c'est sur un âne. On arrive sur un âne parce que ça, c'est un symbole de paix. Vous savez que nous connaissons, par la suite de l'histoire, que Jésus rentre une fois comme roi sur un ânon, mais que Jésus revient aussi dans l'Apocalypse une fois sur la terre, non plus sur un ânon, mais sur un cheval blanc, avec une épée dans sa main. Et là, on dit, quand on lit la suite de ce texte, on tremble, parce qu'on se dit que le jugement de Jésus-Christ ce jour-là sera terrible. Il nous est dit que ce sera pire que le jour du déluge. Cette fois-là, Jésus arrive pour apporter la paix. Mais Jésus arrive aussi en montrant toute son humilité encore ce jour-là. Je ne sais pas si vous voyez bien quelqu'un qui est assis sur le dos d'un âne, hein, dos de linant. Il y a quelque chose d'un peu ridicule, d'un petit peu cocasse à voir quelqu'un se déplacer comme ça sur le dos d'un âne. Il y a quelque chose d'amusant pour revenir à Napoléon, hein. Quand Napoléon, il a fait la conquête et qu'il a traversé les Alpes, au moment où il a passé le Grand Saint-Bernard, il a été obligé, dans les petits chemins qui étaient là, de passer aussi sur le dos d'un âne. Mais quand le peintre David l'a peint pour cette conquête, il a mis dessous lui, sur cette toile célèbre, un grand cheval blanc. On a changé le petit âne par un cheval blanc. Il y a là quand le Seigneur arrive, assis sur le dos d'un ânon, un signe d'humilité. Il ne faut pas oublier, nous sommes dans le chapitre 21, que dans le chapitre 20 qui précède, juste avant, le Seigneur vient de donner une leçon à ses disciples d'humilité. Vous savez qu'il y en a qui se sont un petit peu près des prises de bec pour savoir qui aurait la place la plus importante auprès du Seigneur. Et le Seigneur leur a expliqué l'humilité. Et quelques jours après, ou le lendemain, ou le surlendemain, il arrive là, à Jérusalem, en étant sur le dos d'un ânon. La troisième chose que le Seigneur nous laisse comme leçon, c'est peut-être un détail, hein, c'est peut-être insignifiant, mais quand même, c'est un ânon. Ça veut dire, le texte le dit, quelqu'un on ne s'est jamais assis sur cet animal-là. Alors, si vous connaissez un peu comment ça se passe avec les chevaux, il faut les débourrer. Hein, si vous ne faites pas appel à un spécialiste qui débourre un cheval, jamais le cheval il va vraiment comprendre qui est celui qui le domine et qui est sur son dos. Jamais il le ferait. Hein, c'est, moi, j'ai une compagne d'un de mes fils qui monte un cheval qui n'a jamais été débourré, c'est extrêmement dangereux. Un cheval qui n'a pas été convenablement débourré, tôt ou tard, il jette son cavalier tout le temps par-dessus sa tête, tout le temps au moment où on s'y attend pas. Il doit être débourré, parce que sinon, il y a quelque chose en sa nature qui l'empêche d'être soumis, d'obéir à l'autorité qui est sur son dos. Et ici, c'est la même chose. C'est un ânon. On imagine le risque que prend Jésus en rentrant dans une ville où il y a de l'agitation, du tumulte partout, et il est sur le dos d'un âne. C'est un mâle. Il est têtu comme un âne. Et il n'a pas du tout d'envie d'aller où on lui dit d'aller. Et le Seigneur n'a pas peur d'être sur cet ânon et de frôler le ridicule en étant, par exemple, conduit dans un sens ou dans un autre ou sur un âne qui s'arrête et qui veut plus avancer. Et il y a dans ce symbole le fait que il y a le couronnement de Jésus-Christ par la nature même. La souveraineté de Jésus, l'autorité de Jésus, elle se manifeste même sur ces choses-là comme cet ânon qui n'a jamais été monté mais qui va lui obéir au doigt et à l'œil parce qu'il est le souverain. Jésus l'a montré souvent, ça qu'il est souverain sur la nature. Il a montré qu'il parle au vent, il a montré qu'il parle à la tempête, il a montré qu'il marche sur les eaux. Mais dans cette situation-ci, il montre encore, on pourrait dire, le premier couronnement de Jésus dans cette situation, c'est la nature qui lui obéit. C'est la nature qui le couronne. C'est la nature qui reconnaît ce qu'il est dans son projet et dans son entrée à Jérusalem. Vous savez que dans Romains, tu vas pas le prendre, Simon, enfin, sauf si tu l'as, mais dans Romains, au chapitre 8, au verset 19, il nous est dit que la nature entière, elle attend avec elle, comme un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. On sait qu'un jour, au deuxième retour de Jésus-Christ, la nature est totalement différente. Aujourd'hui, elle est soumise à l'homme, et la manière dont l'homme a mis la main dessus est pas des meilleurs et pas la meilleure des manières. Mais un jour, on sait que lorsque le Seigneur revient, le lion est différent, le serpent est différent, la nature entière est différente. Il y a dans cette symbolique du Seigneur qui rentre sur un petit ânon qui lui obéit, déjà aussi cette main de la nature qui obéit au Seigneur. Quand les disciples arrivent, c'est en fait tout à fait le commencement de la Semaine Sainte. Hein, quand on voit, quand on fait la corrélation entre les passages, les dates, comment ça va se passer dans la semaine, on voit que l'on est le dixième jour du mois de Nissan. Le dixième jour du mois de Nissan, c'est un jour qui correspond dans la semaine sainte au lundi. Donc, dans 5 jours, Jésus va être crucifié. Dans 8 jours, Jésus va ressusciter. À l'époque, il y a une influence terrible vers Jérusalem. On a trouvé des textes qui mettent en évidence que quelques années après la mort de Jésus et sa résurrection, pour une fête de Pâques, on avait sacrifié dans le temple 260 000 agneaux purs, sans tache, sans défaut. Quand on sait que la loi prescrivait que normalement c'est un agneau pour une dizaine de personnes, et en tout cas pas plus, on peut évaluer sans se tromper qu'il y avait comme ça 2 millions de personnes qui se dirigeaient vers Jérusalem pour faire la Pâque juive. On préparait la plus grande des fêtes juives, la Pâque juive, le passage, la délivrance, le moment où les Juifs ont été libérés d'Égypte, où ils ont été rendus libres, où ils ont été sauvés, le salut des Juifs. C'était la Pâque juive. C'est ce jour-là qu'ils arrivent là-bas, qu'ils sont sur l'âne, que Jésus est sur l'ânon, et qu'on assiste aussi à ce qu'on pourrait appeler le deuxième couronnement de Jésus. On va dire le couronnement par la prophétie. En fait, quand on continue la lecture en Matthieu 21, des versets 4 et 6, nous lisons « Or ceci, cette histoire avec l'âne, arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi plein de douceur, il est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse, Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ce jour-là, Jésus est couronné par la prophétie. Ce que nous lisons là, c'est une prophétie du prophète Zacharie, 5 siècles avant Jésus-Christ. Zacharie, c'est celui qui, en quelques versets, a dit ceci. Nous allons le relire dans le texte de Zacharie, c'est au chapitre 9, au verset 11. C'est vraiment ce que nous venons de lire en Matthieu. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste, il est victorieux, il est humble, il est monté sur un âne le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm, les chevaux de Jérusalem, les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est ce texte-là. C'est le même prophète qui, un petit peu plus loin, va prophétiser que Jésus va être vendu pour 30 pièces d'argent. C'est le même prophète qui va dire que ces 30 pièces d'argent, après, vont servir à acheter le terrain du pendu. Des prophéties précises. Je voudrais peut-être me focaliser un moment sur la précision de la prophétie ici. Dans la Bible, il y a des centaines de prophéties qui parlent de Jésus. C'est vrai que des fois, quand on les lit, on se dit, un peu tiré par les cheveux, hein, on lit dans des commentaires que ça faisait référence à ça, et on se dit, faut aller le chercher, quoi. Hein. Mais ceci dit, on considère qu'il y a quand même une 60aine de prophéties qui sont d'une précision redoutable en ce qui concerne la vie de Jésus. Et il y en a quelques-unes qui sont vraiment interpellantes. Jésus qui est né d'une vierge, Jésus qui est né à Bethléem, Jésus qui va mourir crucifié, Jésus qui va dire certaines paroles sur la croix comme « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus qui va être mis dans le tombeau d'un riche, Jésus qui va être vendu pour 30 pièces, Jésus qui va avoir sa tunique partagée, tirée au sort. Il y a quand même une série de prophéties qui sont d'une précision extrême. Et j'ai lu que quelqu'un, hein, ça, l'exemple vaut ce qu'il vaut, hein, on s'en fout hein, complètement. Mais quand même, à l'époque où nous vivons et où il est tellement facile de discuter ce que la Bible dit, de remettre tout en question en ce qui concerne la parole de Dieu, de dire que c'est un ramassis de mensonges, de vieilleries, à l'époque où nous vivons, nous sommes tellement intelligents, où nous avons découvert plein de choses, où nous savons tout expliquer, où nous comprenons tout, où nous avons fait les calculs de probabilité et les calculs de statistiques. Fiables, les calculs de probabilité et de statistiques. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous êtes à une soirée électorale, au bout de quelques minutes, vous avez la tendance qui va se dessiner et 9 fois sur 10, elle va rester identique et la même jusqu'à la fin, la remise complète des résultats. Précieux, n'est-ce pas, le calcul de statistiques et de probabilités. J'ai lu que quelqu'un s'est cassé la tête en statistiques et en probabilité, évaluer la probabilité qu'il y avait seulement que ces 8 prophéties les plus importantes, là, hein, celles que je viens de citer, s'accomplissent dans la vie d'un homme. Et le résultat, la conclusion de son calcul de probabilité, c'est que le risque que ça s'accomplisse dans la vie d'un homme, il est comparable à quelqu'un qui en une fois prendrait une pièce de 1 euro sur laquelle il y aurait une grande croix et qui serait mêlé dans un tas de pièces d'euros d'une épaisseur de 30 cm et qui recouvrerait une surface comparable à la surface entière de la France. La France entière, pas Paris, la France entière recouverte d'un tapis de 30 cm de pièces d'un euro, quelqu'un plongerait la main dedans et retirerait la bonne pièce, c'est l'équivalent en calcul de probabilité que la probabilité que ces choses se soient accomplies dans la vie de Jésus-Christ. Interpellant quand même, nous qui sommes branchés sur la connaissance, sur les calculs, interpellant quand même. Ce jour-là, Jésus est couronné par la prophétie, parce qu'elle s'accomplit jusque dans le moindre détail. C'est intéressant, je trouve, de voir que Jésus accomplit cette prophétie-là volontairement. C'est lui qui la maîtrise, c'est lui qui la domine. Les autres prophéties, elles sont pas contrôlables, naturellement, évidemment. Jésus, en tant qu'humain, ne pouvait pas choisir de naître d'une fille vierge. Il pouvait pas choisir non plus de vivre à Bethléem. Il pouvait pas non plus décider comment il allait mourir. C'était impossible. Mais ça, ça dépend de lui. Cette prophétie-là, volontairement, il décide, lui, de l'accomplir. Il arrive plein de douceur. Nous avons lu dans le texte de Zacharie, « Sois transporté, voici ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, mais il est humble. » Il arrive plein de douceur. Un roi qui vient plein de douceur, c'est pas tellement habituel, un roi ça vient de n'importe quelle manière, mais généralement pas tellement plein de douceur. Il vient plein de douceur. La prophétie, parfois, elle mélange un peu les venues de Jésus. Hein. Ici, c'est un roi qui vient avec autorité, mais plein de douceur. Il est victorieux, mais plein de douceur. Parce que il est celui qui vient non pas pour faire la guerre à l'État romain, pour défendre Israël, ou pour faire la guerre aux ennemis du peuple de Dieu. Il vient pour faire la guerre à l'ennemi de l'homme. Celui qui est dans mon cœur, celui qui est dans ton cœur, le péché. Il vient avec humilité, parce que cette guerre-là, elle ne se fait que lorsqu'il va se sacrifier comme un agneau, l'agneau de Dieu immolé. C'est pour ça qu'il vient avec humilité. Il vient s'offrir pour que cette guerre, ce conflit entre toi et le Père, entre moi et le Père, soit résolu une fois pour toutes. Et c'est intéressant de voir que, justement, le dixième du mois de Nissan, dans la fête pascale, dans le peuple juif, c'est le jour où sont choisis tous les agneaux qui vont être sacrifiés. C'est le même jour, quand Jésus arrive, comme arrivent plein d'autres agneaux qui vont être sacrifiés dans le temple, c'est juste ce jour-là que Jésus choisit pour venir et venir dans la ville de Jérusalem. Couronné par la nature, couronné par la prophétie, il y a dans le texte de Matthieu 21 et de cette entrée à Jérusalem un troisième couronnement. On pourrait dire un couronnement un peu plus versatile, un petit peu plus mitigé, un peu plus différent quand on lit dans le texte. Mais quand même, il y a le couronnement d'une certaine partie de la foule. Matthieu 21, des versets 7 à 9. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, ils mirent sur eux leurs vêtements, ils firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Et ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus couronné par une partie de la foule. On voit cette scène, les uns par révérence, par reconnaissance de ce grand homme qui arrive, parce que sa renommée l'a précédé, bien sûr. On met les vêtements par terre, on met les vêtements sur l'âne, on lui dit « Assieds-toi sur mon vêtement ». Et puis, on coupe ces feuilles de palme, on en met par terre, on en agite autour de l'entrée triomphale de Jésus. Vous savez, nous savons, nous, que ça c'est un signe de reconnaissance de royauté. Alors, encore une fois, c'est pas comme la robe d'Élisabeth II, c'est pas la même chose, mais ça c'est un signe de royauté. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, on va pas le lire, mais dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 9, des versets 9 à 13, on nous raconte comment Jéhu va être nommé roi en Israël. Eh bien, c'est comme ça. Les gens vont l'acclamer roi, et pour acclamer sa royauté, ils coupent les branches comme ça, ils les mettent par terre pour qu'il marche dessus. C'est un signe de reconnaissance de royauté. Et souvenez-vous, ça on va le lire, que dans l'Apocalypse, encore au chapitre 7 et au verset 9, il nous est expliqué comment nous allons nous comporter dans ces moments-là, au moment où nous serons tout près de Dieu, devant le trône et devant l'agneau. À ce moment-là aussi, il y aura des branches pour acclamer Dieu. Après cela, je regardais, et voici, Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans la main. Le même signe, l'adoration de Dieu, l'adoration du roi, avec des palmes dans la main. Vous avez remarqué dans le texte, devant et derrière, il y a des gens qui crient « Hosanna ». Hosanna, ça veut dire « Sauve maintenant ». Hosanna, ça faisait référence à Dieu. Ça veut dire « Sauve-nous du Romain, sauve-nous maintenant ». Ça faisait référence au fils de David, au Messie que l'on attendait. Et d'ailleurs, les pharisiens qui sont là ont très bien compris qu'il y avait des gens qui disaient que Jésus-Christ était le roi, le Messie qu'on attendait, et qu'ils le criaient haut et fort. Dans l'évangile de Luc, on lit ça, qu'il y a les pharisiens qui viennent chez Jésus et qui lui disent « Et du calme, tu entends ce qu'ils sont en train de dire, fais-les taire !» Et que va dire Jésus ce jour-là? Que va dire Jésus ce jour-là? S'ils se taisent, les pierres vont crier. Sous-entendu, s'ils se taisent, les pierres crieront que je suis le Messie, que je suis le Fils de Dieu, que je suis celui qu'on attend. Quel est notre verdict, notre regard sur la chose? Quelle est notre réponse à ce que nous croyons comprendre ici comme couronnement de Jésus-Christ? Matthieu 21, versets 10 et 11 disent « Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et on disait « Mais qui est celui-ci » Et la foule répondait « C'est Jésus, c'est le prophète de Nazareth, le prophète de Nazareth en Galilée. » On voit que la réponse est mitigée. Les uns crient « Hosanna au fils de David !» Les autres disent « C'est qui celui-là? C'est qui celui-ci? C'est le prophète !» Quel prophète? Le prophète de Nazareth en Galilée. Moïse avait dit qu'il viendrait après lui un grand prophète, plus grand que lui. David a dit qu'il viendrait après lui le Messie. Mais personne n'a jamais dit dans la parole de Dieu que un prophète ou le prophète allait venir de Nazareth en Galilée. Personne n'a jamais dit ça. C'est la raison pour laquelle Nathanaël dira de Nazareth qu'est-ce qui peut venir de bon. C'est la raison pour laquelle les rois, les savants de l'époque diront à Hérode que celui qui doit naître à Bethléem. Mais en tout cas, Nazareth, ça n'a aucune référence à la parole de Dieu. La réponse est mitigée. Qui est Jésus? Un prophète. Qui est Jésus? J'ai vu les paroles de Michel Onfray. Vous connaissez peut-être. C'est un ardent défenseur de l'athéisme contemporain. Il a écrit d'ailleurs, je pense, ça s'appelle le traité d'athéologie. Le traité d'athéologie. Donc, c'est une grosse pointure dans l'athéisme. Il écrit ceci. Jésus est donc un personnage conceptuel. C'est un concept. Toute sa réalité réside dans cette définition. Certes, il a existé, mais pas comme une figure historique, sinon de manière tellement improbable qu'existence ou pas, finalement, peu importe. Mais il existe comme un concept, la cristallisation d'aspirations prophétiques d'un peuple. Les évangélistes écrivent une histoire avec elle, ils narrent moins le passé d'un homme que tout le futur d'une religion. C'est pas nouveau. Au IIe siècle, il y a un opposant célèbre au christianisme, il s'appelait Celtus. Il écrit, lui, le discours véritable. Et il dit ceci, donc c'est au IIe siècle. Et dans ces derniers temps, les chrétiens ont trouvé parmi les juifs un nouveau Moïse qui les a séduits encore plus que Moïse. Il passe auprès d'eux pour le Fils de Dieu et il est l'auteur d'une nouvelle doctrine. Il a rassemblé autour de lui sans choix un ramassis de gens simples, perdus, de mauvaises mœurs, grossiers, qui constituent toujours la clientèle ordinaire des charlatans et des imposteurs, de sorte que l'agent qui s'est donné cette doctrine permet déjà d'apprécier quel crédit il convient de lui accorder. C'est pas nouveau. Qui est Jésus-Christ ? Pour toi, pour moi, pour nous, pour ceux du dehors, en ce temps de Pâques, pour ceux que nous aimons, qui est Jésus-Christ ? Tolstoï a écrit « Celui qui comprend l'enseignement de Jésus-Christ ressent la même chose qu'un oiseau qui ne savait pas jusqu'alors qu'il avait des ailes. Et puis soudain, il comprend qu'il peut voler. Il est libre et n'a plus peur de rien. » Charles Duke, qui était celui qui conduisait la Jeep sur la Lune dans le voyage Apollo, a écrit « Marcher sur la Lune faut pour moi une expérience extraordinaire. Mais marcher avec Jésus-Christ, Fils de Dieu, voilà ce qui remplit vraiment ma vie, maintenant et pour l'éternité. » Jacques Delors, le français Jacques Delors, écrit « Je ne me considère pas comme un bon chrétien. Mais dans les moments difficiles, il y a toujours un fil invisible qui m'a retenu et qui m'a ramené vers la foi, comme une immense soif. La foi m'aurait peut-être quitté s'il n'y avait pas eu l'existence prouvée, concrète, charnelle de Jésus-Christ. Cette existence concrète de Jésus-Christ est pour moi toujours l'élément de référence. » Carl Lewis, vous savez, le champion du 100 mètres, là, l'établisseur d'une multitude de records, écrit « J'ai gagné des médailles d'or en quantité. Elles sont là dans ma chambre, mais elles ne sont plus qu'un peu de métal aujourd'hui. Mais Jésus, lui, n'a jamais changé dans ma vie. Jamais. » Les foules disent « C'est le prophète de Nazareth en Galilée, il s'appelle Jésus. » Les foules disent un peu n'importe quoi, mais pour vous, pour toi, est-ce que Jésus est celui qui est couronné par la nature, par la prophétie, par lui-même lorsque le peuple crie « Sauve-nous maintenant, fils de David ?» Quand on disait à Elvis Presley, vous entendez tout ce que les gens disent de vous. Elvis Presley répondait aux journalistes, mais les gens disent des bêtises, ils disent n'importe quoi. Ils disent que je suis le king, que je suis le roi. Et il ajoutait, pour moi, il n'y a qu'un seul roi, c'est Jésus-Christ. En fait, ce sont juste les mots d'une foule enthousiaste. Pourtant, répondre à cette question, qui est Jésus-Christ ? C'est la seule question importante de toute ma vie, de toute ta vie, de toutes les vies. C'est la seule question importante. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu rêves ? Qu'est-ce que tu as eu ? Qu'est-ce qui te fait du bonheur ? Ça n'a aucune importance. La seule question qui est importante, c'est celle de répondre qui est Jésus-Christ. Parce que de cette réponse-là dépend ton verdict par rapport à Dieu. Jésus, il dit à ses opposants, il ne faut pas le prendre non plus, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 8, les versets 24. « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi, je suis, eh bien, vous mourrez dans vos péchés. » Et un peu avant, au chapitre 3, au verset 36, toujours dans Jean, Jésus dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la condamnation, le jugement de Dieu demeure sur sa tête. » Qui est véritablement Jésus-Christ ? En conclusion, je voudrais relire Zacharie 9, des versets 9 à 11, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste, il est victorieux, il est humble, monté sur un âne le petit d'une ânesse. » Jésus vient établir et donner la paix. Jésus vient deux fois. Quand Jésus rentre à Jérusalem pour donner la paix, il ne vient pas pour donner la paix du monde. Il ne vient pas pour qu'il n'y ait plus de guerre entre le Congo et le Rwanda. Il ne vient pas pour qu'il n'y ait plus de guerre entre la Palestine et Israël. Il ne vient pas pour qu'il n'y ait plus de guerre dans les ménages. Il ne vient pas pour qu'il y ait réconciliation dans les couples. Il ne vient pas pour qu'il n'y ait plus de guerre entre les parents et les enfants. Il vient pour une autre guerre. Il vient pour que soit terminée la guerre qu'il y a entre moi et Dieu. Ou plutôt, l'état de guerre qui est décrété entre Dieu et moi à cause de mon péché. Il vient pour régler ce conflit-là lorsqu'il apporte la paix. La deuxième fois, lorsqu'il viendra, il apportera une autre paix. Une paix à laquelle pourront goûter simplement ceux qui ont goûté à la première paix. La paix d'avoir été réconciliés avec Dieu parce qu'ils auront accepté qui est vraiment Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce passage important. Parce que c'est un passage qui nous permet de crier haut et fort que tu t'es laissé proclamer roi des rois, sauveur, fils de David, Messie. Merci Seigneur parce que tu viens avec humilité t'offrir en sacrifice, Seigneur. Merci Seigneur si nous avons déjà reconnu notre besoin de guérison, si nous avons déjà reconnu combien nous étions malades, combien nous étions en rébellion contre Dieu, combien Dieu avait un regard de guerre sur nous à cause du péché. Mais Seigneur, ce matin, je veux d'une manière particulière, en ce temps de Pâques, te prier encore pour que nous puissions nous aussi encore raconter cette histoire où tu es rentré victorieux dans Jérusalem comme roi de paix. Donne-nous, Seigneur, en ces temps de Pâques, de parler encore, de donner ce message de ta royauté à ceux qui sont autour de nous, à ceux que nous aimons, à ceux que nos enfants, à ceux qui sont nos enfants, à ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Nous voulons te louer, Seigneur Dieu, que tu sois venu de cette manière. Nous voulons reconnaître encore, comme on l'a dit tout à l'heure, que si nous devions t'adorer en esprit et en vérité, comment ferions-nous? Comment ferions-nous, Seigneur? Tu dis toi-même que ce sont les choses de l'esprit de l'homme qui parlent aux hommes. Et tu dis que c'est de la même manière, c'est l'esprit de Dieu qui parle des choses de Dieu. Seigneur Dieu, nous sommes tellement loin d'être des adorateurs en esprit et en vérité. Nous reconnaissons ce matin que notre seul droit à t'adorer, c'est parce que toi-même, Seigneur, tu as été médiateur, intercesseur et sacrifice pour nous. Seigneur, transforme-nous encore à cette image. On l'a dit tout à l'heure, la louange, la gloire à ton nom, ce n'est pas une affaire de parole, une affaire de chanson, une affaire de chansonnette, une affaire de louange. C'est une affaire d'obéissance, Seigneur. Transforme-nous encore, Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus. Roi couronné par la nature tout entière, roi couronné par la prophétie tout entière, roi couronné, Seigneur, par des voix qui ont crié que tu étais le fils de David et que tu as accepté. Amen.